Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en direct et vous l'avez compris exceptionnellement sans public pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec la cuisine et les dépendances de la critique où ont pris place trois femmes. Armelle Héliot du Figaro, Fabienne Pascaud de Télérama, Charlotte Lipinska de Marie-Claire et de Vanity Fair et un homme bougon style Jean-Pierre Bacri, j'ai nommé Jacques Nerson de l'Obs pour parler ce soir des pièces de Marivaux, Maeterlinck, Botho Strauss, James Frey, Ira Levin et de deux classiques du couple Jaoui. Bacri, dans le courrier de la semaine, Camille Ferdinand remercie Armelle et Jacques d'avoir défendu la pièce Edmond d'Alexis Michalik au Palais Royal. C'est du théâtre populaire comme on l'aime. Fabienne Pascaud condamne les erreurs historiques, mais cette comédie ne prétend pas faire œuvre d'histoire. Ne boudons pas notre plaisir. Philippe Chavernac remercie ses chers amis masqués pour leur recommandation unanime du spectacle de Philippe Cobert à l'Athénée, qui, seul en scène, incarne avec justesse tous ces personnages, un théâtre exigeant et ouvert à toutes les générations. Christiane Carcagno de Chaville prend la défense contre le masque et la plume de la ronde de Schnitzler au Vieux Colombier, montée par Anne Kessler. J'ai assisté à une représentation remarquable. La mise en scène était ingénieuse, fluide, élégante, les acteurs épatants. Certes, les intermèdes de M. Silberstein sont alambiqués, c'est moins qu'on puisse dire, mais j'ai trouvé futé son idée de recherche en paternité. Claude Dini a adoré Une chambre en un d'Ariane Nouchkine, une pièce brillante, cohérente et profonde. Bref, tout le contraire de ce que dit Jacques Nerson. Faut-il d'ailleurs être léger pour prononcer, Jacques, un verdict aussi cavalier face à une artiste qui a une telle panoplie de créations à son actif? Pour Jean-Luc Clairet, Jacques Nerson a perdu d'ailleurs toute crédibilité depuis qu'à cause de son assassinat éhonté des éphémères de la même Nouchkine, j'ai revendu les places que j'avais achetées pour mes deux fils à qui je rêvais de faire découvrir le Théâtre du Soleil. Je me souviendrai jusque sur mon lit de mort de la mélancolie immense qui m'a saisi dès la première image de ce qui allait être un spectacle sublime dont je ne me suis pas encore remis. Tu veux dire un mot sur le Mnouchkine, non ?
Ben, que j'aime pas tous les spectacles de Mnouchkine, qu'il y en a beaucoup que j'ai aimé, ne serait-ce que
chambre
les
naufragés
du Folies Pas, mais pas Une chambre en Inde, non, c'est vrai.
Anton Goubier de Montpellier, ça c'est encore pour Jacques, exprime son vif désaccord avec Jacques Nerson alors qu'il attaquait Une chambre en Inde d'Ariane Nouchkine. Nerson qualifia le discours de Charlie Chaplin dans Le Dictateur de pleurnichard. Nerson n'a rien compris au dictateur dont le discours final n'est pas pleurnichard, c'est un élan, une poussée verticale qui ne mérite que des éloges. Là encore, rien à ajouter, j'imagine.
Non, là, bon.
Et pour finir, David de Néna a vu et a aimé à Versailles, cette fois les femmes savantes montées par Catherine Yégel, que nous on avait vu à Porte-Saint-Martin, avec un Jean-Pierre Bacri allègre qui ne fait pas du Bacri, et une Agnès Jaoui très convaincante, prenant une voix timbrée, une belle voix chantée, mais il a moins aimé les jeunes actrices Julie-Marie Parmentier, elle s'enflamme trop, et Chloé Berthier. Voilà pour le courrier de la semaine et on commence avec le couple vedette de la saison qui s'est reconstitué au théâtre de la Porte-Saint-Martin, je le disais, puisque ça a été un triomphe, un grand triomphe pour les femmes savantes de Molière. Et là, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri reprennent dans ce même théâtre deux de leurs plus grands succès, Cuisine et dépendance, et Un air de famille qu'ils ont écrit ensemble et dont Agnès Jaoui assure la mise en scène de pièces qui se jouent en alternance. Et le samedi, dans la continuité, elles font à peu près une heure et demie. Donc c'est possible de voir les deux ensemble, mais que le samedi. Cuisine, il faut le rappeler, un couple bobo qui invite à dîner deux amis qu'ils ont perdu de vue depuis 10 ans. Un écrivain journaliste à succès, avec sa femme dévouée, lesquels vont arriver avec 2 heures de retard. Et la pièce se déroule exclusivement dans la cuisine, une grande cuisine d'ailleurs, où on va se déchirer. Pièce qui avait été créée en 91, portée à l'écran par Philippe Muil, jouée aujourd'hui par Grégory Gadebois, Léa Drucker, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac et Nina Meurice. Et puis on règle aussi ses comptes dans un air de famille, où la famille Ménard fête l'anniversaire d'une belle fille dans le café du fils aîné. Pièce créée en 94. Portée cette fois à l'écran par Cédric Clapiche, donnée aujourd'hui avec les mêmes comédiens que dans Cuisine, à l'exception de Catherine Yégel. J'ai vu Cuisine, j'ai pas vu encore Un air de famille. Cuisine et dépendance qui m'a semblé un tout petit peu vieilli, c'est à la fois son charme et peut-être aussi sa limite, mais je vais vous laisser en parler. Sauf qu'il faisait, n'est-ce pas, Charlotte, il faisait un peu froid ce soir-là.
Oui, effectivement.
Le chauffage marchait pas très fort.
Non, mais alors, en plus, même sur les deux spectacles, c'est vrai qu'on peut conseiller d'y aller avec sa petite laine et garder son écharpe. J'en ai encore quelques séquelles.
Petit conseil domestique.
Absolument. Alors, cela dit, Jérôme, vous n'avez vu que Cuisine et dépendance, oui. Et je trouve ça dommage parce que finalement,
mais
s'il
je vais
fallait,
voir un air de
vous
famille.
Allez aller voir l'autre, tout
aller,
à fait. Je trouve ça très intéressant de voir les deux pièces parce qu'elles sont construites sur le même terreau, c'est-à-dire les relations familiales, la représentation de soi, l'image sociale que l'on donne. Maintenant, il me semble qu'un air de famille est quand même plus construit, plus abouti sur les personnages. Cuisine et dépendance souffre d'un petit manque de rythme. C'est vrai que tous les apartés du dîner se font dans la cuisine, mais sur un rythme qui quand même enlève un peu à l'efficacité de la comédie. Après, il est vrai que c'est quand même difficile de se départir des interprètes originaux, surtout sur Un air de famille qui est un grand, grand succès au cinéma qu'on a tous certainement vu un jour à la télévision. Mais je trouve là que Grégory Gadebois particulièrement, qui reprend les rôles de Jean-Pierre Bacri, donc Henri et Georges dans les deux pièces, amène une douleur, une noirceur, c'est-à-dire qu'il est tout aussi bougon, mais il est moins pète-sec. Et du coup, je trouve les pièces peut-être moins drôles.
Ah bah dans Cuisine, il est même très colère. Hein.
Oui, il est très colère et ça apporte une douleur. Et alors, c'est moins drôle qu'au cinéma, mais du coup, je trouve qu'il y a peut-être plus d'émotions et qu'on se rend compte que ces relations familiales sont quand même extrêmement terribles. Quoi. On ne rit pas tant que ça. C'est pas si drôle ce que ces pièces nous racontent. Et moi, j'en suis sortie avec des petits frissons, effectivement, sur ces relations assez dures
les
qu'ils ont les uns.
Les films faisaient quand même beaucoup rire, les films.
Absolument, mais là on est sur un registre, je trouve, plus noir.
Fabienne.
Moi j'ai trouvé que ça avait terriblement vieilli et que ça racontait pas grand-chose de fort. Vous évoquiez la création. Au Théâtre La Bruyère, c'était une petite salle qui est dans le 9e, c'était une mise en scène de Stéphane Meldec, dans un espace très réduit. Là, c'est sur l'immense espace de la Porte Saint-Martin. Du coup, la petite chronique familiale, sympathique, amicale, de copains qui dénoncent l'image, qui dénoncent les étiquettes où tout le monde est enfermé, aussi bien dans le cercle des amis que dans le cercle familial, bon, c'est pas grand-chose. Et tout à coup, sur cet grand espace de la Porte Saint-Martin, le lieu n'est pas fait pour la pièce. Le manque de rythme, c'est simplement pour les comédiens, c'est long de se déplacer, c'est long de, comme ils bougent, dans ce décor gigantesque, ce bar bien trop impressionnant, cette cuisine qui a l'air d'être la cuisine d'un loft américain.
Oui.
Donc pour moi, et pour moi déjà, ça c'est le handicap, le gros handicap. Je n'ai pas été impressionnée par Gadebois, notamment que j'aime beaucoup, Grégory Gadebois, parce que je trouve qu'il en fait des kilos. J'ai beaucoup aimé Léa Drucker, par exemple, mais je trouve que du coup, les acteurs insistent. C'est vrai que des gens de ma génération, on a effectivement les modèles, les anciens ou ceux qui ont vu les films dans l'oreille. Là, j'ai trouvé que c'était très appuyé, que c'était pas très inspiré et pas très drôle. Et qu'en plus, bon, alors on va ergoter sur le fait que c'était les années 90, il n'y a pas le portable et tout ça, mais tout ce monde-là me semble tellement loin. C'est écrit petitement.
C'est en franc d'ailleurs, il y a les téléphones muraux.
Oui, mais enfin, bon, je veux pas comparer ça à Tchekhov, mais
dans Tchekhov
aussi.
Dont se réclame parfois.
Ils disent simplement qu'ils aimeraient arriver, comme Tchekhov ou comme Woody Allen, à faire rire tout en étant émouvant, à faire rire de choses tragiques. Mais ils ne disent pas qu'ils ne se prétendent pas le Tchekhov moderne. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le Tchekhov, on parle de monnaies qui n'ont pas cours, on parle d'une technologie qui est dépassée, et ça ne nous paraît pas vieilli pour autant. C'est pas la question. Moi, je trouve que l'écriture est très fine. Il faut quand même se souvenir de ce que c'était que le théâtre. De divertissement, pour ne pas dire de boulevard, il y a dans ces années 90, à l'époque, c'était quand même d'une grande finesse d'une grande audace de parler d'autre chose que des coucheries habituelles. Mais aujourd'hui encore, je pense que vous n'avez pas parlé de la chose importante, la cible de ces deux pièces, la cible commune, c'est quoi ? C'est l'état de bêtises devant lequel sont plongés les gens face à la télévision. Oui. Et ce sont des gens qui se renient eux-mêmes, qui perdent tous leurs objectifs, toute leur dignité.
On ne la regarde plus la télévision comme ça, Jacques. Ben, on la regarde sur son portable maintenant ou sur son ordinateur, mais pas de manière linéaire.
La célébrité médiatique existe encore. Et malheureusement, il y a chez beaucoup de gens encore ce côté fan et qui leur fait perdre leur lucidité. Et c'est ce que montrent ces deux pièces. Je trouve que elles montrent avec finesse et avec sensibilité. Et c'est vrai que le décor est grand. Plus grand qu'il n'était.
Mais
c'est le théâtre. Et il faut se rappeler aussi que Un air de famille a été créé au théâtre de la Renaissance, qui n'était pas spécialement petit. Et je trouve que ça marche très bien. Et j'ai entendu, moi, le public rire beaucoup. J'étais pas le seul à rire.
Armelita.
Oui, moi, je suis plutôt du côté de Jacques Nerson parce que, moi, au fond, ce qui m'intéresse, c'est que ça reste quand même très ressemblant à la France d'aujourd'hui. Même si, effectivement, technologiquement, c'est plus la même chose, même si on est passé à l'euro, même si des années ont passé, 25 ans ont passé, je trouve qu'au fond, cette France un peu déprimée, qu'on voit dans Un air de famille, cette France triste...
Oui, la question de l'ascension sociale.
Dans ce grand café désert, rien n'est faux dans les relations humaines, par exemple, dans Un air de famille. Tout est juste. Ce chien qu'on oublie derrière le comptoir, cette femme qui est partie, qui va peut-être revenir.
Et tout ça, c'est très juste. Tout le monde s'en fiche parce qu'on ne pense qu'au frère qui est passé à la télévision pour deux minutes.
Exactement.
Et on ne pense qu'à lui et pas au chagrin de celui qui a été quitté.
Ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Même si Fabienne a raison, on ne consomme plus la télévision avec les mêmes supports.
Que ça soit vrai, c'est le minimum,
Que ça soit vrai.
C'est pas seulement vrai, c'est émouvant.
Ça frappe. Et dans
Cuisine
et Dépendance, c'est pareil. Et puis bon, cette grande cuisine, n'exagérez pas. Ça ressemble aux cuisines de vos appartements haussmanniens du 9e arrondissement.
Pas du tout, la mienne est beaucoup plus petite.
Arrêtez. Elle est hyper réaliste. Et moi, j'ai quand même été frappée. Alors moi, je trouve que la cerise sur le gâteau, je ne pense plus, moi, du tout au créateur. J'ai pas pensé une seconde à ceux qui avaient créé.
Aux interprètes originaux.
On pense à Cazenove, quand même.
Armelle ne dit pas que vous ne pensez pas à Daroussin à un moment donné.
Quand même. Je trouve que les nouveaux sont très bien.
Je me plonge dans cette distribution qui est absolument formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé Grégory Gadebois. Léa Drucker est formidable parce qu'elle change.
C'est vrai.
Dans des registres très compliqués et ingrats, elle est formidable. Laurent Capelluto, formidable. Jean-Baptiste Marsenac. Et alors Nina Meurice, je l'ai trouvée extraordinaire, cette fille. Parce qu'elle est méconnaissable d'une pièce à l'autre. Dans Cuisine et Dépendance, on dirait Audrey Azoulay. Elle est belle comme Audrey Azoulay, c'est très bien.
Donc alors à la fois Cuisine et Dépendance et Un air de famille. Je vais aller voir Un air de famille, donc.
Avec une écharpe.
Les deux se jouent donc au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. En alternance, une semaine une pièce, l'autre semaine l'autre pièce, sauf le samedi, où vous pouvez donc les voir dans la continuité à Chaillot et jusqu'au 3 février. Donc il faut faire FISA si vous en avez envie. Mélanie Laurent s'essaie au théâtre avec Le Dernier Testament. L'actrice de Tarantino signe sa première mise en scène. Elle adapte avec Charlotte Farcel le roman de James Frey, dont le postulat est que le Messie est toujours vivant, qu'il s'appelle Benzion Avrohom, qu'il est épileptique, qu'il vit à New York, qu'il prône l'écologie, pratique la bisexualité et sème le trouble partout où il passe. Un Jésus d'aujourd'hui, donc, raconté par ses apôtres. Alors, il y a une prostituée, il y a un agent du FBI, il y a un directeur de chantier, un chirurgien, sa sœur, un rabbin, un prêtre, et par sa mère, la lecture du roman de James Frey, explique Mélanie Laurent, dans le programme, a surgi comme un miroir au cœur de mes propres inquiétudes, celle du devenir du monde, de la planète dans un avenir proche. Est-ce que vous êtes convaincu par l'Évangile selon Mélanie Laurent, Jacques?
Ben écoutez, non, je ne connaissais pas ce roman.
De James Frey.
Je ne connaissais pas.
Il y a eu un gros succès.
Oui, j'ai lu ça. J'ai lu qu'il avait quand même eu quelques mauvaises critiques, notamment dans mon propre journal, Allops. Mais j'ai surtout eu l'impression de voir l'Évangile pour les lapins crétins.
C'est quoi les lapins crétins?
Les lapins crétins, c'est un dessin animé avec des lapins qui sont très bêtes. Mmh. Et là, j'ai l'impression que c'est assez lapin qu'on raconte ce que c'est que Jésus, etc. C'est plus que primaire, c'est vraiment stupide. Et ce qui est très curieux...
Mais le roman l'était, donc...
J'ai l'impression que le roman l'était, d'après ce que j'ai lu.
Je vous le confirme.
Le roman l'était, mais le spectacle l'est aussi. On ne peut pas faire autrement. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est assez...
Sur la grande scène de Chaillot, en plus.
Alors, première mise en scène de Mélanie Laurent,
elle
dispose
de moyens
incroyables, mais incroyables pour une première mise en scène. Je pense que Chéreau, à la grande époque, n'avait peut-être pas autant de moyens.
Mais elle a fait
moyens.
Un film qui a bien marché.
Mais sûrement, mais ça
pourrait
quand même...
On compte sur un événement.
On pourrait quand même être un peu prudent. On pourrait quand même être un peu prudent. Enfin bon, et lui demander de faire ses preuves. Mais par ailleurs, elle se débrouille pas si mal. C'est plein d'idées sur un plan uniquement plastique. C'est pas mal du tout. Et ce qui fait que malgré la stupidité...
Parce qu'elle a les moyens, Jacques, c'est pareil.
Elle a l'intelligence de bien être accompagnée.
Il suffit pas d'avoir de l'argent, il faut encore savoir l'utiliser. Elle l'utilise bien.
Elle l'utilise pas bien.
Mais pas qu'une maxime, ça.
C'est la sagesse des nations qui s'est exprimée. Mais non, c'est pas si mal. Elle a un certain talent, incontestablement.
Elle a choisi un texte idiot.
Armelita. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Oh non, moi je trouve ce spectacle navrant. Et moi, alors, je ne sacralise pas les lieux. Mais voir ça à Chaillot.
Qui n'est plus un théâtre, hein, c'est un lieu de danse.
Non,
ça
s'appelle le Théâtre National de la Danse.
Oui,
n'empêche, c'est Chaillot. On y a vu autrefois des grands spectacles, des grands acteurs.
On a vu aussi beaucoup de mauvaises choses depuis.
Non, maison Armel. Mais je dis moi-même que je ne sacralise pas. N'empêche que devant ce navrant naufrage, on est consterné. Elle est naïve.
Pire.
Comment peut-elle penser que cette histoire est intéressante? Peut-être que si j'avais...
Mais il y a des milliers de gens qui l'ont cru.
Je ferais une thèse je ferais ma maîtrise sur les ravages de... les ravages de théorèmes. Parce que je pense que tous ces livres-là, ça croit être comme ça subversif. Parce que vous avez oublié de dire que le Jésus, il est alcoolique.
Ah oui, sinon, Jérôme l'a dit.
Bisexuel. Enfin bon.
C'est pas la ligne tout à fait.
Il y a tellement de bons comédiens là-dedans. Parce que Lou Delage, par exemple. Mais Lou Delage, on la reconnaît même pas.
Merveilleuse comédienne.
On la reconnaît pas. Jocelyn Lagarrigue, on le reconnaît pas. Bon. Non, c'est pas bien. C'est un mauvais service qu'on lui rend parce que par ailleurs, effectivement, c'est une charmante comédienne qui a du talent, qui a une carrière en Amérique, qui a des convictions pour sauver la planète. Et d'ailleurs, vous avez vu que dans la feuille de salle, on nous rassure la terre sur que les foules, les comédiens sera redistribuée à des.
Et c'est vrai que son documentaire avait eu un succès
demain.
Il y a deux ans.
Sur la vidéo, c'est ridicule.
Non, c'est pas si facile d'utiliser un plateau comme ça.
Moi, je suis un peu d'accord avec
Jacques. Mais c'est des images qui puent la praline, enfin.
Oui, mais
les images, elles sont aussi sottes que le fond du roman.
Ah, le fond du roman, ce que ça raconte, c'est vraiment niaiseux.
Je comprends pas que
niaiseux,
vous soyez
naïf
avec
et plein de bonne volonté, de grands sentiments, enfin bref, c'est pas très très
c'est un
passionnant.
Roublard, hein, l'auteur.
Oui, c'est un roublard, c'est un roublard. Et puis c'est tellement long, en plus ça manque tellement de rythme dans la mise en scène que même ceux qui pourraient être attirés par ça, je pense les ados, les plus jeunes que nous, les vingtenaires ou les trentenaires, c'est tellement lent que je pense qu'ils laissent tomber et qu'ils s'endorment. Mais sinon, dans la mise en scène, moi je dois dire qu'il y a des images, il y a une utilisation de l'espace. Alors certes, la Terre, c'est un peu facile, surtout quand
des petites étoiles.
Oui, mais il faut l'utiliser.
Mais enfin,
il faut savoir
l'utiliser.
On va laisser terminer Fabienne.
Elle a quand même des talents de mise en scène. Elle a quand même un œil, elle a quand même un regard. Je pense que là,
elle
a choisi. Vous êtes trop indulgent.
Mais pas du tout. Elle a choisi un texte idiot, et ça, c'est quand même grave quand on prétend faire un spectacle. Mais visuellement.
C'est un peu ballot, quoi, quand on.
Quand
elle
on fait sa première
très bien,
mise en scène,
comédien, ah, je suis d'accord avec vous. D'accord. Mais visuellement, il y a des choses qui m'ont bluffée.
Charlotte.
Mais moi, je rejoins effectivement Fabienne et Jacques parce que c'est ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle un spectacle chouquette. C'est-à-dire, c'est une belle coquille vide. C'est plutôt joli à l'extérieur,
enfin,
mais quand on croque dedans, il n'y a pas grand-chose.
Mais c'est si, bon, les chouquettes.
Mais oui, c'est très bon.
Mais, c'est chouquette pour la pâquerette.
Je trouve que quand même, Mélanie Laurent a l'intelligence de bien s'entourer. Et effectivement, à la scénographie, on retrouve Marc Lenné et Zimmerli. Donc, c'est quand même un tandem qui fait des très belles choses. Il y a des très belles images en scène. Après, c'est effectivement au service d'un texte qui laisse complètement pantois, qui pourrait assumer une certaine
elle
naïveté.
Riche, elle a des sous,
mais là,
alors elle,
ça
elle
frôle
prend des bons
dangereusement la mièvrerie. C'est-à-dire, ça n'est plus naïf, ça devient mièvre. C'est anti-cynique au possible, je vous l'accorde. Maintenant, je trouve ça plutôt prometteur et j'attends de voir un texte
son
un peu plus
spectacle.
Conséquent, plus
son
intéressant.
Parce que là, on pourrait l'exfaire à l'Opéra Bastille, peut-être.
Ça s'appelle Le Dernier Testament. C'est à Chaillot. Jusqu'au 3 février, et c'est la première mise en scène de Mélanie Laurent. Le Petit Maître corrigé, une pièce peu connue de Marivaux, qui avait été assassinée à sa création, Nerson s'en souvient, puisque c'était en 1734, et qui se donne à la Comédie Française Salle Richelieu jusqu'au 24 avril, là on a le temps. Elle est mise en scène par Clément Hervieux-Léger, dans une plutôt belle, je trouve, scénographie d'Éric Ruff, qui représente des dunes avec de hautes herbes. D'ailleurs, qui dit dune dit normalement près de la mer, c'est pas très en rapport avec la pièce. Peu importe, seul problème, quand les comédiens sont couchés, en tout cas depuis l'orchestre, on ne les voit plus. Et l'histoire, ben, elle est celle d'un jeune marquis parisien, Rosimond, c'est Loïc Corbery, qui débarque à la campagne où ses parents lui ont trouvé un bon parti. C'est Hortense, la fille d'un comte, Claire de la rue Ducamp. Alors que cette dernière veut donner une correction au petit maître, qui est un peu mufle, il faut dire, un peu snob, Dorimène, la maîtresse de Rosimond, c'est Florence Viala, arrive de Paris pour empêcher le mariage. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que vous avez les uns les autres, comme moi, vu la pièce. Il faut ajouter les parents, les suivantes, les valets, et vous avez une comédie qui, d'ailleurs, sur le papier, ne manque pas de piquant. Est-ce qu'il fallait autant faire courir dans tous les sens pendant plus de deux heures les comédiens sur le plateau comédiens que pour le coup on a du mal à comprendre, c'est aussi une question que je vais vous poser à la fois donc visuelle et auditive. Charlotte,
Écoutez, moi j'ai eu aucun problème pour les entendre et finalement les comédiens ça a été mon quasiment seul bonheur de ce spectacle, dont je trouve que en termes de mise en scène il n'y a aucune idée, il y a des vagues effets de ciel qui montent et qui descendent, on ne comprend pas pourquoi. La seule petite idée, c'est de suggérer une attirance gay entre les deux garçons, mais je trouve que ça n'apporte absolument rien à l'histoire. En revanche, il y a quand même des comédiens merveilleux sur le plateau, vous en avez cité beaucoup Jérôme, mais moi je rajouterais surtout Christophe Montenez, c'est vraiment son année. Après les damnés, on le découvre
mais
là
le valet de Rosimond.
Oui, il est extrêmement drôle, et puis Adeline Dermy qui fait la servante, qui est piquante, qui est espiègle et qui est vraiment merveilleuse. Et puis c'est quand même La Langue de Marivaux, alors certes c'est certainement pas sa plus grande pièce, c'est même peut-être un peu un brouillon de ses chefs-d'œuvre à venir, mais entendre du Marivaux avec ces comédiens-là, on suffit à mon bonheur, même si je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est très plan-plan, extrêmement classique et qu'il en restera certainement rien d'ici quelques mois.
Jacques ?
Moi, j'ai pas beaucoup aimé cette mise en scène, mais pour des raisons tout à fait différentes. C'est-à-dire, dans le programme, la Comédie Française nous dit que Hervieux-Léger est reconnu pour l'actualité de ses mises en scène du répertoire. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Il me semble qu'ils ont essayé de donner des comportements contemporains, des comportements d'aujourd'hui à des personnages du XVIIIe siècle, et je crois que c'est une erreur profonde. Je crois, par exemple, que
qu'est-ce qu'ils ont de contemporain les comportements.
Par exemple, nous voyons
ils se roulent par terre et courent. Mais bon,
pas seulement gestuel, mais si vous voulez, quand vous voyez une marquise devant ses valets en public, parce qu'elle a chaud, s'est vantée en agitant son corsage sur sa poitrine, c'est assez étrange. Il y a des notions de pudeur qui sont importantes quand on voit le personnage de Dorimond se comportait de façon tout à fait hystérique, hurlait de rire d'un bout à l'autre de la pièce, mais d'un rire très forcé et en marchant dans tous les sens, etc. Là aussi, il y a quelque chose qui ne correspond pas aux situations ni aux personnages. Et c'est drôle parce que on fait beaucoup d'efforts. Il y a un décor qui coûte relativement cher, qui est réaliste, effectivement, cette dune avec ses herbes plantées dedans. Il y a des décors, des costumes d'une beauté absolument incroyable.
Des
tissus magnifiques. Et je me dis, mais pourquoi ils font tant d'efforts là et pourquoi ils rendent presque vulgaire Marivaux, ce qui est une sorte d'exploit. Parce que contrairement à Fabienne, qui a dit du mal de cette pièce et qui parle d'une œuvrette et qui dit que c'est une comédie poussive, moi je crois que c'est une pièce qui aborde quelque chose de très profond, qui est la muflerie des garçons. La pièce va tout à fait au bout, c'est la mise en scène qui la détruit. C'est une bonne pièce.
Objectivement, c'est pas une grande pièce.
Moi je trouve que c'est une très bonne pièce, simplement elle est très mal montée. Je crois qu'elle est très mal montée. Malgré d'excellents comédiens.
Et vous avez tout compris, vous avez tout entendu?
J'ai mal entendu, c'est vrai, mais c'est souvent le cas à la Comédie française. Il y a sûrement
un problème
Charlotte,
dans cette salle. On est mal appareillés, vous et moi, mais
Non, j'ai vraiment perdu, honnêtement, presque la moitié du texte de certains comédiens.
Fabienne.
Non, moi je trouve que c'est pas une grande œuvre de Marivaux, c'est pas un hasard s'il y a eu une cabale, même si la cabale était plutôt, je crois, parce qu'il voulait se présenter à l'Académie française. Elle parle de tas de choses intéressantes, le rapport Paris-Province, par exemple, avec les Parisiens qui snobent, qui croient qu'ils ont tout inventé et aller épouser une provinciale, cette Hortense beaucoup plus fine, ça semble un paradoxe. L'attirance, l'homosexualité, l'attente.
Oh, elle n'est pas vraiment présente dans la pièce. Ça, c'est le metteur en scène.
C'est présent, mais ça ne va pas au bout.
Ça ne va pas au bout, mais il y a quelques...
La relation édipienne entre le fils et la mère, qui est aussi... Mais tout ça, c'est juste évoqué. Et pour revenir sur le thème qu'on retrouve toujours dans l'œuvre de Marivaux, c'est-à-dire l'aveu. Quand est-ce qu'on va dire qu'on aime? Comment on va dire qu'on aime? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va dire qu'on aime? Et même une fois qu'on l'a dit, on n'est pas sûr. Il y a du lacanisme. Déjà, on n'est pas sûr que ça soit vrai. Et pourquoi on le dit? Mais ça, mis à part, je trouve que c'est des petites touches. Et moi, encore une fois, c'est comme l'espace à la Porte Saint-Martin. Ce décor d'Éric Ruff m'a gênée. Alors, je sais qu'il va bientôt y avoir une adaptation de Renoir.
La règle du jeu.
Mais là, ça m'a fait penser à la partie de campagne. Et je trouve que ce décor, certes, il est beau, mais une fois qu'on l'a vu, on a tout vu. Il est toujours le même.
Il est presque étouffant.
Il est très dur pour les acteurs.
Il imite beaucoup l'air de jeu des comédiens.
Eh bien, tout a été dit. Hein. Moi, j'étais pas placée comme aussi bien je le suis d'habitude. Donc,
c'est-à-dire,
pour le coup, je ne voyais rien. Dès qu'ils étaient au
bord
plateau,
étiez à l'orchestre.
Par terre. Oui, j'étais à l'orchestre. Moi, je recommande à tout le monde d'aller voir cette pièce depuis la corbeille.
On ne voit pas.
Parce qu'elle n'a pas que
vous
des défauts.
Vous êtes d'accord, on ne voit pas.
Ah non, moi, je ne voyais rien et je n'entendais rien.
Bon, voilà.
Donc je devinais quand même pas exagéré, peut-être.
Encore une critique malade.
Non, justement, j'ai cru que j'étais sourde et je suis sortie, je suis tombée sur Jacques qui m'a dit mais moi j'étais au cinquième rang, je n'entendais pas Corberie. Moi j'étais un peu plus en arrière. Bon, mais ça, peut-être que c'était des défauts techniques du début. Mais pourquoi, par exemple, Charlotte parlait de ce ciel, cette toile peinte qui tourne et qui roule et qui dégage complètement la cage de scène et les tubulures.
Ça paraît
et
totalement
tout ça.
Gratuit.
C'est pour montrer, comme dans les tableaux d'Hubert Robert, devant des grandes façades, il y a des petits hommes. Mais justement, ils sont devant des façades, ils ne sont pas devant des espaces. Moi, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'erreurs de débutants. Et c'était quand même difficile d'admettre ça à la Comédie française.
Mais c'est pas
quant
un très
à
bon
la pièce,
en
je
scène,
suis complètement
la mise en trompe,
d'accord
pas si bien que ça.
Avec Fabienne. Et puis bon, il y a quand même des acteurs exceptionnels, les plus âgés d'ailleurs.
Dominique Blanc, Didier Sandre, sont magnifiques.
Ah bah oui,
formidable. Et Florence Viala aussi.
Florence Viala, bien sûr.
Le Petit Maître corrigé, c'est donc de Marivaux. C'est aux Français et vous avez jusqu'au 24 avril. Pour aller les voir courir, intérieur de l'oublié Maurice Maeterlinck, écrivain belge et symboliste, né en 1862, mort en 49, en 1949, c'est un spectacle de Nazim Boujna au studio, au petit studio de la Comédie française qui se trouve dans la galerie du Carrousel du Louvre, je le rappelle. Et là, ça se joue jusqu'au 5 mars avec Anne Kessler, Anna Servinka, Thierry Ancis et Pierre Ancis, lequel d'ailleurs joue Dorante, le copain de Rosimond, je vous le rappelle, dans Le Petit Maître corrigé. L'argument très symboliste, un vieil homme, c'est Thierry Ancis, accompagné d'un étranger, qui est joué par Pierre Encisse. Je ne sais pas s'il y a un rapport de famille entre
père,
les deux.
Père et fils.
Père et fils. Ben voilà, merci du renseignement. Donc, qui vient de trouver le corps d'une jeune noyée et doit annoncer la nouvelle tragique à la famille. Et à travers les fenêtres d'une maison tout à fait paisible, ils observent depuis le jardin le père, la mère et leurs deux filles qui brodent au coin du feu. Le vieil homme n'arrive pas à se décider à troubler l'harmonie de cette famille, à frapper à la porte, à dire que la fille aînée est morte, devant d'ailleurs la force à la fois symbolique, j'ai presque envie de dire mystique du sujet. Maeterlinck avait même pensé remplacer les comédiens par des marionnettes. Boujna, bah lui au moins, il a relevé le défi avec des vrais comédiens. Armelita, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien que peut-être c'était mieux pour des marionnettes. Cette pièce, on l'avait vue déjà, Claude Régis l'avait montée. Et j'ai pas le souvenir que c'était aussi désincarné que ça. Parce que ça commence magnifiquement.
Le texte est bouleversant.
Superbe.
Sublime.
Et puis il y a ce décor de Marc Lainé, le même qui a fait le décor pour Chaillot. Et pour,
et qui est sublimissime.
Oui, magnifique, avec un effet de vidéo extraordinaire.
C'est le même tandem que vraiment, le spectacle de Mélanie
non,
Laurent.
Non, il est tout seul, Marc Lainé.
Il y a Stéphane Zimmerli aussi.
Oui, qui a fait la création graphique, effectivement.
Oui, qui a fait la création graphique de ces peintures qui s'animent. Donc ça va ensemble.
Bon. Bref, oui, pardon Charlotte.
Je vous
j'ai
en prie,
la bonne ligne. J'ai pas lu la bonne ligne. Non, mais donc il y a ce moment absolument mais envoûtant et magique. Et puis après, tout se fige. Et ça se fige trop. Je sais pas, il a pas trouvé le...
Faut dire que Thierry Ancis, c'est pas très bon non
plus. Bon, alors, il avait pas l'air... Moi, le soir où je l'ai vu, il avait pas l'air... à l'aise du tout. Il n'avait pas l'air présent. Il avait
quelque
pas l'air
chose qui
bien.
Ne prend pas.
Bah, on lui fait jouer un vieil.
Mais je ne sais pas quoi
mais
dire.
Ça dépend comment il a été dirigé. C'est, on sait
mais
bien
c'est
que
c'est un
il
tout
peut,
jeune
peut
homme qui signe la mise en scène.
Oui, mais il y a quand même une idée surtout, c'est que sous prétexte que c'est de la poésie, et c'est un texte éminemment poétique, mais d'une simplicité, d'une pureté totale, c'est joué.
C'est pas de la poésie, enfin, c'est du symbolisme.
C'est du symbolisme,
c'est pas de la poésie. La poésie, ce n'est pas. C'est poétique, disons. C'est un texte poétique, profondément poétique. Et même si la forme littéraire est très simple, effectivement, très pure, mais c'est joué avec une lenteur absolument extraordinaire. On voit vraiment pousser l'herbe entre les répliques.
C'était plus long chez Claude Régis, hein,
qui l'a monté avec
des Japonais.
C'est quand même quatre fois trop long.
Chez Claude Régis, se passait toujours quelque chose.
Et Thierry Ancisse, en plus, se croit obligé, mais c'est pas de sa faute, encore une fois, c'est le metteur en scène qui le lui demande certainement, mais pour jouer le vieillard, non seulement il parle très lent, mais il chevrotte.
Jacques, vous exagérez.
Il chevrotte. Il prend une petite voix tremblotante.
Non, là aussi, vous exagérez.
C'est un peu ridicule.
Et
ça retire de la poésie.
Je comprends très bien ce que vous dites.
Il ne faut pas jouer petitement la poésie.
J'ai tellement été ému par ce texte que j'ai du mal à.
Oui, mais le texte est admirable.
Je comprends les réserves. Mais alors, Fabienne.
Oui, moi, j'ai été bouleversée par le spectacle, quand même, malgré tout. Même si j'ai des réserves sur le jeu d'Ancisse.
Vous comprenez donc ce que j'ai éprouvé.
Exactement. Parce que ce que ça raconte, moi, je trouve que, justement, des acteurs... Je comprends que Maeterlinck ait voulu des marionnettes, parce qu'il y a tellement d'âmes, il y a tellement de choses qui se disent sur le temps, sur l'amour,
souffrance.
Sur la mort, sur le temps qui passe, sur cette nouvelle qui va bouleverser la vie, et la peur de casser la vie de ces gens qui sont derrière, que vraiment, ça semble même plus humain, à force d'humanité. Mmh. Et j'ai trouvé que là, justement, tout l'espace et tout le dispositif, l'image, faisait vraiment partie du spectacle.
Ah, mais je suis entièrement d'accord.
Ça m'a entraîné. J'étais comme hypnotisée.
Ben, on est hypnotisé, effectivement, mais on a effectivement aussi l'esprit qui peut vagabonder, parce que dans cet écrin sublime, où donc ce sont comme des estampes japonaises, il y a quelque chose de très très japonais dans ces dessins qui sont projetés et qui s'animent sur des panneaux de bois. On voit un paysage avec une rivière qui s'intègre. Et effectivement, on peut avoir notre esprit qui vagabonde dans cette rivière parce qu'on a le temps, quoi. Il a le temps de vagabonder. Effectivement, Jacques disait, il y a de l'herbe qui pousse entre chaque réplique, c'est vrai.
C'est
et moi, je trouve que malgré cet écran sublime, sublime et la force de ce texte, il y avait quelque chose pour moi de très désincarné. Donc je comprends, on est de l'ordre de l'expérience de l'intime, ça peut toucher des spectateurs, mais il faut admettre aussi que ça peut en laisser beaucoup sur le carreau, ce qui a été
on peut aussi préconisé, c'est ce que je fais autour de moi, de lire ce texte.
Oui, oui, oui. Et puis,
d'abord pour redécouvrir Maeterlinck, et puis parce que voilà, ça raconte, ça dit ce qu'on a tous dans nos vies connues, qui est terrible et qui n'a jamais été étrangement ni porté à l'écran ni sur scène. Oui, c'est-à-dire, à quel moment on peut prendre la décision d'oser dire la pire chose,
la pire chose.
Mais des peut-être qu'il y a aussi un problème
de distribution. C'est-à-dire, vous parliez de l'âge tout à l'heure. Thierry Ancis n'est pas un vieillard et donc il force à jouer le vieux. Et Pierre, son fils, je le trouve là pour le coup un peu trop vert et un peu trop jeune pour porter un texte pareil.
Je veux juste rajouter quelque chose. Il y a un Péléas et Mélisande absolument magnifique à l'épée de bois jusqu'au 5 février.
Donc là, cet intérieur, c'est donc Maeterlinck. De Maeterlinck et c'est au studio de la Comédie Française. Rapidement, malheureusement, Le Temps et la Chambre de Botho Strauss, qui est un classique, parce qu'il avait été monté par Chéreau en 91. Là, c'est dans une traduction de Michel Vinavert, c'est mis en scène par Alain Françon. Ça nous vient du TNS, du Théâtre National de Strasbourg. C'est présenté à La Colline jusqu'au 3 février, avec une distribution aux Petits Oignons, Dominique Valadier, Jacques Weber, Vladimir Yordanov, Gilles Privat, Georgia Scaliet et la voix d'Anouk Grimbert, d'autres encore d'ailleurs dans cette pièce. Une pièce assez, d'ailleurs, à la fois complexe, qu'il n'est pas évident de résumer, mais de toutes les manières, comme j'ai très peu de temps, je vais vous demander simplement si vous conseillez d'aller à La Colline ou non.
Alors si Charlotte. On n'a pas peur d'être déstabilisé par ce théâtre allemand des années 80 qui est quand même assez sec et elliptique, il faut y aller pour les comédiens. Gilles Privat, Jacques Weber, on dirait Laurel et Hardy sont formidables, et surtout Georgia Scalette qui est exfiltrée de la Comédie Française pour cette production que je trouve incroyable. Elle change de registre d'une scène à l'autre, elle est extrêmement magnétique et charismatique en scène, il faut aller la voir.
Fabienne.
Ah non, surtout n'allez pas perdre votre temps et vous ennuyer au Temps et la Chambre qui avait été la pièce, je la trouve pas très bonne. Botho Strauss, il a écrit quelques pièces magnifiques qui racontaient la solitude dans les grandes villes, la désespérance des gens, les vies émiettées, fragmentées. Là aussi, c'est que du fragment, mais ça n'a pas la puissance de ces autres textes. Pour moi, c'est pas une très bonne pièce. Patrick Chéreau avait réussi à la sublimer grâce surtout à Anouk Grimbert. Là, je pense que c'est trop profond et trop fort pour notre ami Alain Françon, qui n'y retrouve pas ses petits et qui ne sait pas comment la dépasser, qui ne sait pas comment la rendre lisible. Moi, je n'ai rien compris à la représentation que j'ai vue. Et en plus, c'est vrai que Georgia Scalette est bien, mais quand on a eu la chance, encore une fois, de voir Anouk Grimbert, qui était phénoménale, qui était Loulou, Alice au Pays des Merveilles, Lolita, La Mouette de Tchekhov, elle était toute à la fois dans cette pièce. Et là, moi, je n'ai pas trouvé les comédiens exceptionnels. Jacques.
Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait que des bons comédiens sur le plateau. Ils sont admirablement dirigés, même Jacques Weber. Je suis d'accord avec vous sur une chose, c'est sur la pièce que je ne trouve pas intéressante. Allez. Je trouve que le projet de Botho Strauss de déconstruire les codes de narration, comme on nous l'explique, ça a beaucoup vieilli, ça s'est fait énormément et c'est profondément démodé. Mais la mise en scène de Françon, je la trouve très claire. Mais est-ce que la pièce gagne à être éclaircie? C'est la question, à mon avis.
Pourquoi il l'a monté, alors? Je suis d'accord avec les réserves qu'on peut avoir et sur le vieillissement, mais je pense qu'on passe quand même une très bonne soirée.
C'est donc Le Temps et la Chambre de Botho Strauss, c'est à La Colline. Jusqu'au 3 février, j'avais inscrit, mais on n'a pas le temps, Piège mortel, au Théâtre La Bruyère du romancier dramaturge américain Ira Levin. Mais je pense que vous serez pas très nombreux à vouloir le défendre. Donc je vous laisse une toute petite poignée de minutes pour conseiller un spectacle, Fabienne.
Moi, aller redécouvrir Sarah Kane au studio théâtre d'Alfortville, mis en scène par Christian Benedetti. Sarah Kane, on sait qu'elle s'est suicidée à la fin des années 80. C'est une dramaturge anglaise qui a une puissance et qui décrypte la violence du monde avec une rage baroque qui évoque Shakespeare et Edward Bond. C'est magnifique. C'est interprété superbement et mis en scène très simplement, comme fait toujours Christian Benedetti. Si on a vraiment envie d'aller écouter une écriture contemporaine, il faut aller au studio théâtre d'Alfortville.
Le conseil de Jacques.
Eh bien, moi, je vous conseille un spectacle qui s'appelle Le Clan, qui est extrêmement drôle.
Des Siciliens ou juste Le Clan,
c'est pas des Siciliens, c'est des Corses ou des Marseillais. travaillé, on ne sait pas très bien. En tout cas, je peux vous dire le nom de l'auteur, c'est Eric Fraticelli. Et il joue avec Denis Braticini, Philippe Corti, Jean-François Perron. Bon, il y a une Aurélia Decker qui vient d'abord.
Il ne faut pas en dire du mal. Hein.
Non, on va se faire Jacques. Et c'est
ce serait dangereux d'en dire du mal. Mais alors,
il y a deux hommes qui vous attendent.
Mais c'est irrésistible. C'est dans la salle Réjeanne, le petit théâtre de Paris. C'est formidable, tous les soirs à 21h. J'étais écroulé de rire, j'étais pas le seul.
Le conseil d'Armel Hélio.
Alors, au Nouveau Théâtre de Montreuil, chez Mathieu Boer, une adaptation et une mise en scène de Mathieu Boer du film, enfin du scénario du film de Samuel Fuller, Choc Corridor. Et c'est magnifiquement réussi parce qu'il ne se contente pas d'adapter le scénario, mais il tisse plusieurs fils ensemble. Lui-même est à la batterie en direct avec des musiciens. Il y a une jeune troupe, ce sont les élèves de la promotion sortante du TNS. Tout ça est réjouissant, formidable, audacieux, tonique. Et malheureusement, ça ne se joue que jusqu'au 4 février.
Vous remarquez quand même une tendance du cinéma à revenir sur les scènes.
Mais là, c'est une adaptation extraordinairement.
Fabienne faisait allusion effectivement
habile
à la règle du jeu de Renoir qui va être portée à la scène après les damnés qui ont beaucoup fait parler d'eux, toujours dans ce même français. Et Charlotte, pour terminer.
Eh bien, moi, je vous conseille d'aller découvrir L'ombre de la baleine au théâtre Paris-Villette. C'est un spectacle de et avec Michael Chérignan. C'est un texte autofictif dans lequel il mêle le récit de son enfance qui a été gangrénée par une grande sœur totalement siphonnée.
C'est elle, la baleine ?
Attendez de voir. Et le récit de Moby Dick, justement, dans lequel il s'est reconnu. Et donc, la peur de cette baleine, c'est évidemment celle de cette grande sœur qui a complètement fissuré la cellule familiale. C'est un très beau spectacle parce que qui n'est pas du tout dans la revanche ou le règlement de compte familial. C'est toujours bienveillant. C'est très drôle aussi par moments, mis en scène très élégamment par Anne Bouvier. C'est donc au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 11 février.
Merci, tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Armel Hélio, Fabienne Pascaud et Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir à la maison de Radio France, à la technique et en direct, il y avait Philippe Duclos que je remercie ainsi que à la réalisation David Jacuboviez. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est jeudi prochain, jeudi 2 février. Je vous attends à 20h, cette fois au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée à l'actualité du cinéma, l'autre à l'actualité des livres. Dans une semaine, on parlera donc de deux films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.